Galerie de femmes en rediffusion toute cette semaine dans la marge de l'histoire.
On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Joëlle Brunerie-Kaufmann.
J'ai 5 enfants. 9 ans, 8 ans, 6 ans, 2 ans et demi et 6 mois.
Est-ce que vous êtes logée suffisamment pour tous ces enfants?
Non, nous sommes très mal logés. Nous avons 2 pièces. Nous sommes obligés de nous mettre tous dans les 2 pièces parce qu'il fait trop froid.
À 7?
Oui, à 7 dans les 2 pièces.
Je suppose que vous ne voulez pas d'un 6e enfant?
Non, ce serait une catastrophe.
Bien avant d'être largement connue comme porte-parole du mouvement de défense des otages du Liban, Joëlle Brunerie-Kaufmann, au début des années 1970, exerçait modestement au dispensaire d'Aubervilliers. Des femmes d'ouvriers, français, immigrés, y venaient poser timidement des questions sur le contrôle des naissances. Joëlle Brunerie-Kaufmann a été formée par le planning familial. Avec elle, c'est l'histoire de ce mouvement que nous allons retrouver. Les médecins et les hommes y jouaient un rôle éminent au départ, et puis il y a eu dissémination des savoirs, démocratisation des conduites. En parallèle se constituait un nouveau féminisme qui faisait du corps et de la sexualité des objets politiques. Le congrès de 1973 du planning marque une coupure dans l'histoire du mouvement avec l'avènement au premier rôle d'une génération de militantes qui ne craignait pas la convergence avec ces mouvements, comme Simone If, comme d'autres. Elle n'aimait jamais se mettre en avant seule. Joëlle Brunerie-Kaufmann était de cette génération. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on va remonter à la plus haute antiquité. Très jeune bachelière dans une petite ville de Bretagne, issue d'une famille en ascension, qui se tient droite dans ses principes. Je ne me trompe pas.
Non. Hein.
Vous décidez, première émancipation, vous acceptez le mot.
Oui.
De faire de longues études dans une ville très éloignée de Quimperlé, à Nantes. Et soudain, vous avez 16 ans, 17 ans, par le contact avec l'hôpital, surtout, vous découvrez la mort, la vie, parce que vous saviez à peine comment naissaient les enfants.
Et c'est vrai, je sortais de 13 ans d'éducation chez Ursuline, dans un milieu bourgeois très protégé. Et brusquement, je découvre, parce que ces années-là, nous étions tout de suite catapultés dans les urgences, et je découvre des choses terribles. La mort, les prisonniers qui arrivaient la nuit, qui avaient essayé de se mutiler, qu'il fallait recoudre. Mais aussi ces femmes, et j'en ai souvent beaucoup parlé, qui arrivaient ensanglantées, ayant essayé d'interrompre une grossesse et qui ne pouvaient pas, qui essayaient toutes seules et qui venaient aux urgences essayer d'avoir enfin leur curetage qui allait leur sauver la vie. Et c'est vrai, je n'étais pas du tout préparée à ça. Elles étaient accueillies par encore des religieuses à l'époque, encore nettes, là, qui les traitaient de mauvaises femmes et qui nous expliquaient à peine de quoi il s'agissait. C'est vrai que je crois que ma révolte a commencé là, devant cette injustice de ces femmes qui, comme disait cette jeune femme tout à l'heure, elles voulaient plus d'enfants. Et quand les femmes veulent plus d'enfants, je peux vous dire que tout mon parcours, je peux le prouver, elles ne l'ont pas. Quelles que soient les conditions, elles sont prêtes à mourir, s'il faut, mais quand elles ne veulent pas un enfant, elles n'auront pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de les freiner.
Alors, je ne sais si vous trouviez beaucoup de réponses à vos questions dans le milieu médical que vous fréquentiez. Il n'y avait pas beaucoup de pionniers, par exemple, de l'accouchement sans douleur, j'imagine, à Nantes.
J'ai mal. Mal, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir. Mon petit est là. Il veut sortir, il ne peut pas. Je suis trop petite. Ma mère est morte quand je suis née. Maintenant, c'est mon tour. Sauvez-la. Moi, je me sacrifie.
Nous sommes toutes des sacrifiées, ma pauvre petite. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est notre épreuve sur cette terre. Personne n'y peut rien. Faut te résigner.
Faut pas dire ça, madame. Il ne faut jamais se résigner.
Je vais avoir une contraction.
Elle est à dilatation complète.
Ah, maintenant, tu vas poser tes jambes sur les étriers.
Doucement.
Nous allons faire une première poussée. Inspire. Souffle. Inspire. Plac. Attrape les barreaux. Allez, vas-y maintenant. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Continue, 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 continue. Détends-toi.
Là, détends-toi.
Et maintenant, à la prochaine poussée, nous allons sortir ton enfant. Hein.
Voilà un film d'un autre temps avec Jean Gabin dans le rôle d'un médecin un peu semblable au docteur Lataste, qui était un des grands pratiquants de l'accouchement sans douleur, qui ne devait pas avoir, dans la ville où vous faisiez vos études, Joël Mourneric-Hoffmann, beaucoup d'émules.
Non, c'est vrai. La gynécologie n'existait pas. Il existait, on n'appelait même pas ça l'obstétrique. Il existait des maternités. C'est-à-dire que les femmes allaient à la maternité. Et puis, ben là encore, c'était le destin. Et ben, il fallait pousser madame et souffrir. Et il n'y avait pas de solution. Il fallait se résigner. Donc, elles criaient. Personne n'essayait de les aider. Jusque, justement, ce docteur Lamas qui a introduit cette méthode qu'exerce Jean Gabin, qui est de respirer, pousser, qui a déjà été au moins une prise en charge, au moins une écoute. On ne les écoutait pas. Et à partir du moment où on a commencé à les écouter, elles ont pu revendiquer autre chose. Jusque-là, c'était rien, les femmes. Il fallait qu'elles soient enceintes, sans le vouloir, et qu'elles accouchent en ayant mal.
Mais quand vous posiez des questions à vos professeurs sur l'avortement, par exemple, qu'est-ce qu'on répondait ?
Vous savez, c'est difficile de se rendre compte de ça 50 ans plus tard, mais il y avait une chape de plomb. On parlait à peine de l'avortement. C'était, je vais vous dire, une femme sur deux avortait en France à cette époque-là. Donc elles avortaient. Je suis persuadée que les femmes de ses patrons devaient avorter aussi. Et chez nous, ça avortait, mais personne n'en parlait. Et le seul enseignement que nous avions, c'était un chapitre qui s'appelait « Complications des avortements provoqués ». C'est-à-dire qu'on nous apprenait à la faculté à traiter les ennuis toxiques, les ennuis chirurgicaux, les septicémies, tout ce qui pouvait arriver. Mais par contre, aucune solution avant ça.
Obstétrique, gynécologie, pas d'enseignement à Nantes. Vous allez poursuivre vos études à Paris. Et vous dites que c'est au planning familial que vous avez appris davantage que sur les bancs des amphithéâtres. Le planning familial qui a été fondé en 1956, sous le nom d'abord de la Maternité Heureuse, et dont voici le récit de l'ouverture de la première succursale en province, à Grenoble, en 1961.
Le premier centre français de planning familial, dit aussi de Maternité Heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupés pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement. Sur les panneaux affichés dans ce centre, les membres du groupement peuvent prendre connaissance des moyens qui leur sont offerts pour favoriser la santé des mères, le bien-être des enfants et l'équilibre du couple. Les moyens du centre de Grenoble consistent en cours, donné par des personnalités compétentes.
Alors sur une musique rassurante, des propos un peu lénifiants. Il ne s'agit pas de limiter les naissances, c'est surtout pas un mouvement néo-malthusien, il s'agit juste de les régulariser. Je ne sais pas si à Paris, vous avez connu le premier centre, rue des Colonnes, puis rue Vivienne, c'était aussi précautionneux que cela.
Oui, c'était quand même, c'est amusant et triste même d'entendre ce qu'on vient d'entendre, mais c'était très courageux déjà d'ouvrir un centre de contraception. Et bien sûr, par sécurité, le mouvement avait décidé de dire que c'était la maternité heureuse et pas la planification, et que c'était réservé aux femmes mariées surtout, et qui avaient déjà des enfants. D'ailleurs, les femmes elles-mêmes étaient obligées de se justifier de tout ça. Donc vous vous rendez compte à quelles précautions on a ouvert. C'est-à-dire que le danger, c'était effectivement d'aller vers la liberté sexuelle. Là, il n'est pas question de liberté sexuelle, il est question d'essayer d'empêcher l'avortement chez ces pauvres femmes mariées. Et ce qui s'est passé à Paris, c'est que la Mutuelle des étudiants de France, la MNEF, a ouvert un centre d'accueil pour les étudiants. À laquelle, auquel je suis allée travailler.
Sur le modèle du planning.
Mais exactement, alors là, dépendant du planning. Alors là, c'était des célibataires, et là, c'était une petite révolution, je vais même dire une grande révolution. Ça veut dire qu'enfin, ça voulait dire la liberté sexuelle. Et vous savez, c'est difficile à dire aussi longtemps après. Il n'y avait pas de liberté sexuelle pour les filles. Il y avait une liberté sexuelle pour les garçons. Mais les filles, elles devaient se marier vierges.
Mais alors, au planning, vous étiez, pardonnez-moi ce vocabulaire, hôtesse.
Oui, alors les médecins faisaient le geste médical. Et il y avait des femmes, des hôtesses. Nous étions, donc j'étais hôtesse à l'époque, puisque je n'étais pas médecin. Et nous faisions le travail d'écoute, etc. Mais la Grovel-Allier, docteur Simon, des gens comme ça, Raoul Palmer, c'était des médecins.
Le docteur Simon, que vous venez de citer, raconte que dans l'histoire du planning, les cuisines ont beaucoup d'importance. C'était dans la cuisine de la rue des Colonnes qu'on faisait des démonstrations. Et alors, il dit, je payais des prostituées du quartier qui étaient très contentes d'avoir pour le même prix que celui d'une passe un travail de démonstration à faire sur le diaphragme. Je pense qu'il faut qu'on soit très technique parce que le planning diffuse des techniques.
Effectivement, il y avait à l'époque, il n'y avait pas de pilule. Donc, c'était le diaphragme. C'était un objet qui, maintenant, peut paraître un peu rébarbatif, qui pourrait ressembler de loin au préservatif féminin, mais qui était une espèce de cape que les femmes apprenaient à mettre sur leur col. Plus du spermicide. Et il fallait leur apprendre, parce que, vous savez, en plus, les femmes ne connaissaient pas leur corps. Quand on disait votre col, c'est qu'est-ce que c'est mon col ? On peut avoir accouché 6 fois et pas savoir qu'on a un col, qu'on a une boule au fond de l'utérus, qu'on peut boucher avec une cape. Et c'est ce qu'on leur apprenait. Sauf que ces fameux préservatifs n'étaient pas en vente en France. Absolument pas, puisque la contraception était interdite jusqu'en 67, il fallait que le planning les commande en Angleterre. Vous vous rendez compte l'hypocrisie de la situation, jusqu'en 67. Et c'est le mouvement français pour le planning familial qui a fait un travail considérable et qui s'occupait de ça.
Alors, on reste dans la technique. Le docteur Simon dit, j'ai donné un nom, un truc, le bidule intra-utérin, qui venait d'Allemagne, 1928, son invention, et que j'ai nommé le stérilet.
Alors, le stérilet, c'est un objet de...
C'est un beau mot, d'ailleurs.
Le stérilet, c'est un mauvais mot, parce que les femmes, encore aujourd'hui, ont toujours peur que le stérilet les rende stériles, ce qui n'est pas vrai. Ça s'appelait, en fait, un dispositif intra-utérin, un DIU, et on les recevait par paquet, effectivement, aussi de l'étranger. On les stérilisait, mais là, c'est vrai que c'était un geste plus médical, puisqu'il fallait que le médecin le mette dans une canule, puis le mette dans l'utérus. Donc, il fallait vraiment apprendre aux gens. Et toujours est-il qu'à l'hôpital, ça ne s'apprenait toujours pas, jusque dans les années 68-69. On n'a jamais posé le stérilet. Et jusqu'en 70, il a même été interdit parce qu'il était considéré comme abortif.
Le planning, c'est faire des alliances politiques. Ce n'est pas facile, parce que même le Parti communiste, longtemps, est hostile à la contraception. Et un gaulliste singulier, Lucien Neuwirth, va réussir à convaincre le général de Gaulle, pendant qu'un autre cherche à convaincre Madame de Gaulle. Et la loi sur la contraception passe en 1967, sans que les décrets d'application d'ailleurs ne soient sortis à temps.
Il y a eu une grande levée de boucliers. Il a été très courageux, Lucien Neuwirth, comme Simone Veil plus tard. Il avait très bien saisi la chose, sauf que nous avons eu des adversaires terribles. Je dois dire qu'on ça ressemble un peu aux adversaires d'aujourd'hui, les mêmes, qui sont adversaires du mariage pour tous. Ils ont absolument le même look, le même discours, etc. Et il y avait des gens très opposés. Et alors moi, j'ai toujours dit, je comprends que pour des raisons catholiques, des raisons, des gens qui ne savent pas leur histoire de faire ça, on ne fasse pas, mais qu'on se serve d'arguments. Comme les médecins qui se servaient d'arguments en disant « ça va les rendre stériles, ça va les rendre folles, la pilule c'est dangereux », c'était d'une hypocrisie totale. En fait, ce qui faisait peur à tous ces gens-là, qui c'était à la droite, les médecins que j'avais connus, moi vous savez, en médecine, on était très très peu de gens qui n'étaient pas des enfants de bourgeois, donc c'était des gens avec des vieilles valeurs, c'était l'Église catholique, c'était vraiment des gens qui avaient peur. Et de quoi ils avaient peur? Ils avaient peur de ce qui est arrivé, c'est-à-dire la liberté des femmes. Tout le monde sentait ça. Le jour où elles auraient eu leur liberté sexuelle, eh bien ça y est, on allait vers l'égalité. Et on y va.
Liberté sexuelle qu'en parallèle au planning familial, plus tard les mouvements vont en partie converger, affirmaient les féministes.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Les militantes féministes revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Elle a fait un bébé toute seule.
Avec Joël Brunerick-Hoffmann, nous évoquons une période assez éloignée, on n'en est pas encore au temps de Jean-Jacques Goldman, la dissociation possible des activités sexuelles et de la reproduction. On est au début des années 1970. Une fois vos études finies, vous avez évidemment refusé le système de la médecine libérale et vous avez animé avec d'autres un dispensaire à Aubervilliers où venaient des femmes d'immigrés, des femmes d'ouvriers, des prostituées.
C'était vraiment, je regrette la disparition actuellement de tous ces dispensaires. C'était vraiment une médecine formidable, ces dispensaires intégrés dans la cité, très bien subventionnés, où il y avait des médecins à l'écoute, et puis ce multidisciplinaire. Ça veut dire que, par exemple, on parle de l'immigration, c'était la grande époque, les femmes venaient faire vacciner leurs enfants, et là, les infirmières parlaient avec elles, elles avaient des affiches qui parlaient un peu de contraception, et on arrivait à faire une prise en charge globale, elles avaient confiance en nous. Et on allait aussi leur expliquer tout ça. Vous savez, même les femmes françaises, hein, on allait dans les lycées, on allait dans les entreprises. Il fallait un peu les persuader de ce que c'était que cette grande liberté qui allait leur arriver et qui finalement leur faisait peur.
Le développement de la contraception, même contrarié par la non-parution des décrets d'application de la loi Neuwirth, ne dispense pas de reposer la question de l'avortement.
Oui, alors le grand argument, c'était de dire quand il y aura la contraception, l'avortement disparaîtra. C'est pas vrai, l'avortement disparaîtra jamais. C'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer. Il y a beaucoup de raisons, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, il y a des avortements. Les avortements continuaient et continuaient toujours de la même façon. C'est-à-dire que, et non seulement ça, on leur disait pourquoi vous n'avez pas pris une contraception. Elles étaient doublement culpabilisées. Et en France, toujours pas question de les aider. Moi, on commençait vraiment, on avait une seule technique. Qui était un curetage, pour que si on devait le faire bien, ce fameux curetage, il fallait avoir une clinique, des gens d'accord, et c'était très, très, très contrôlé. Donc, on avait un peu les mains liées. Et en plus, c'était devenu très hypocrite, parce que les femmes qui avaient de l'argent, elles pouvaient partir en Hollande, en Angleterre, où c'était devenu légal, et les autres femmes, celles que je voyais au Aubervilliers, ben non, débrouillez-vous, puis venez me voir quand vous saignez. Moi, je ne supportais plus du tout ça, et je crois que mon engagement, il a d'abord été sur ma culpabilité de médecin à laisser ces femmes risquer leur vie.
Alors, des alliances sont nouées aussi avec les médias, l'Express, le Canard enchaîné, Le Monde, Le Nouvel Observateur, où paraît en 1971 le manifeste des 343 salopes. Les 343 disent
quoi ? Elles ont dit courageuses. On a avorté, ce qui était absolument révolutionnaire. Elles disent « nous avons avorté ». Et à l'époque, elles risquaient la prison.
Et quelques-unes, en fait, n'avaient pas avorté, sans doute.
Bien sûr que non, il y a une solidarité terrible. Bien sûr, tant mieux, elles le disent maintenant. Mais il fallait avoir le courage de dire on a avorté. À cette époque-là, on ne se rend pas compte, mais il fallait avoir le courage de le dire.
Alors, vous parlez technique. C'est le choix de cette émission. C'est le moment d'évoquer l'arrivée de la méthode Karman.
Oui, alors nous étions tout un groupe, tout ce groupe des médecins et des femmes militantes du planning familial. On essayait de trouver des solutions pour aider ces pauvres femmes à avorter. Et nous étions barrés par la technique parce qu'on n'avait pas de possibilité de faire ces fameux curetages. Et puis, on découvre cette fameuse méthode Karman. En septembre 72, c'est une journaliste de Nouveau Observateur qui vient me voir, c'est Kenny Mourad, et qui me dit « je reviens d'Inde ». J'ai rencontré un homme qui était psychologue, qui n'était même pas médecin, et qui a une méthode à lui. Est-ce qu'il l'avait inventée ? Est-ce qu'elle venait d'ailleurs ? En tout cas, une méthode qui était toute simple, qui était de mettre un tuyau dans l'utérus, mais cette fois-là, de le vider, ce qui évitait l'hémorragie, c'est-à-dire comme un accouchement, quand l'utérus est vide, on ne saigne plus. Donc c'était ce qu'on appelait la petite canule de Karman, creuse, on mettait ça dans l'utérus, on branchait une grosse seringue de 50 cc, et presque aussi vite que je vous parle, l'utérus était vide. Je parle des grossesses débutantes, je ne parle pas des grossesses beaucoup plus tardives. Mais donc là, vraiment, là ça nous a brûlé les mains. Là. On s'est dit, là, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir à notre portée un objet qui peut sauver toutes ces femmes, qui peut les aider, et puis pas l'utiliser.
Alors, on a parlé tout à l'heure des cuisines, du planning. Vous utilisez des appartements privés.
C'est Delphine Seyrig, la première, qui a prêté son appartement pour que Karman vienne faire une démonstration aux quelques médecins qui voulaient bien regarder qu'est-ce que c'était que cette méthode, même si on n'y croyait pas beaucoup.
Et puis, Lolé Bellon, dans un appartement
du 15e, Bellon a loué un appartement à son nom. Dans le 15e, après, quelques mois plus tard, quand on a voulu être un petit peu plus à l'aise, tout ça était dans la clandestinité. Et puis, nous prenions nos canules et nos seringues et nous allions clandestinement chez les femmes, sans donner notre nom, sans leur prendre d'argent, bien sûr, faire nos aspirations.
Enfin, ça n'échappe pas aux autorités. À l'époque, Michel Poniatowski, nous sommes en 1973, n'est pas encore ministre de l'Intérieur. Il est ministre de la Santé et à la tribune de l'Assemblée nationale.
En dehors de toute considération morale ou démographique, et sur le seul plan de la santé personnelle de la femme, il faut rejeter l'idée que l'avortement est une méthode normale de régulation des naissances. Ce moyen normal, c'est la contraception. L'interruption de grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme un moyen contraceptif. Bien au contraire, sa pratique doit disparaître au profit d'une utilisation consciente et voulue des différentes méthodes de régulation des naissances. L'interruption d'une grossesse, même lorsqu'elle est pratiquée dans les conditions techniques les plus satisfaisantes, comporte des risques. Même avec la méthode la moins dangereuse, par aspiration, dénommée Karmam, et qui en fait a été mise au point en 1958 en Chine, des dangers subsistent. Si la mortalité est presque nulle, les risques d'accidents plus ou moins sérieux existent et atteignent dans les pays où ils sont appliqués librement 2%. Avec les autres méthodes, les accidents dépassent 4% et comprennent des cas mortels.
Alors, on ne va pas discuter de l'origine de la méthode de Karmann, Chine, Inde, mais vous voyez, le ministre, il pointait des risques.
C'est une perle que vous avez retrouvée là. Je ne me rappelle même plus de ce discours. On était tellement pris dans notre lutte, mais c'est faux. Et c'est toujours, on retrouve toujours le même discours. C'est à chaque fois qu'on a fait un pas vers la liberté des femmes, que ça a été avec la contraception des dangereux. Maintenant, c'est l'aspiration Karmann qui est dangereuse. C'est complètement faux. C'est les chiffres qui donnent. Mais enfin, on ne va pas discuter ça aujourd'hui. Mais c'était histoire de nous barrer. C'était encore pour le bien des femmes qu'on allait les empêcher de faire ça. Voilà. Qu'ils disent que la contraception, c'est mieux que l'avortement, certes. Pour les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, c'est moins triste, la contraception. Mais puisqu'on est à l'avortement, on est à l'avortement. C'était leurs arguments et c'est ce qu'on a entendu aussi, exactement ces arguments au moment du débat sur la loi.
Quand Michel Poniatowski laissera le ministère de la Santé à Simone Veil l'année d'après, il dira, vous verrez, chère Simone, elles viendront faire des aspirations Karmann jusque dans votre bureau. Il y a eu le manifeste des 343 salopes, je m'accuse d'avoir avorté. Et justement, cette année-là, 331 médecins dont vous êtes signent un texte dans le Nouvel Observateur, toujours « J'ai pratiqué des avortements ». Et ce ne sont pas des gens connus là qui signent.
Non, comme je vous l'ai dit, on avait cette technique, on l'a trouvée qu'elle, pour les femmes, c'était merveilleux. Donc, enfin, merveilleux, c'est jamais merveilleux d'avorter, mais que c'était bien pour elles aussi sur le plan de la santé. Donc, il y avait des petits groupes, justement, on parlait de Grenoble tout à l'heure, petits groupes en province, des petits groupes à Paris, les gens du planning familial. C'était tous, bien sûr, des médecins de base. Je compare souvent maintenant un peu après à ce qui s'est passé pour le sida. C'était les usagers qui prennent leurs choses en main et les médecins sont des médecins de base. C'est pas les patrons, c'est pas l'université. Et donc, on avait commencé à aller chez les femmes clandestinement et on s'est rendu compte qu'on allait, c'était septembre 72, on était rendu en février. On s'est dit, il y en a un qui va se faire choper, il va faire de la prison. Il faut qu'on soit collectif. Et si on est au moins 100, ils pourront pas nous mettre en prison. Et en fait, on a été 331. C'est comme pour les femmes, je pense que les 331 n'avaient pas tous fait d'avortement. D'ailleurs, Lorta Jacob, président de l'Ordre, s'est empressé de dire qu'ils n'étaient pas des vrais médecins. La plupart étaient psychiatres. Et puis, ils n'avaient pas non plus des noms très catholiques.
Alors, premier risque, être rayé à vie ou temporairement de l'Ordre des médecins. C'était arrivé avec Jeannot, dit
Jean Carpentier.
Le docteur Carpentier, qui lui avait fait un tract tout à fait discutable quand même, Joël Brunerie Kaufmann, apprenons à faire l'amour. Alors, le Conseil de l'Ordre, qu'est-ce qu'il décide pour vous ?
Alors, le Conseil de l'Ordre avait déjà interdit d'exercer pendant un an Jean Carpentier. C'est d'ailleurs ce qui nous avait permis de nous regrouper au sein du groupe Information Santé pour défendre d'abord Jean Carpentier sur son merveilleux tract. Qui ne choquerait plus personne aujourd'hui d'ailleurs. Et puis le Conseil de l'Ordre donc menaçait. Et donc nous risquions d'être simplement rayés de l'Ordre. Mais bon, la plupart étaient encore étudiants. À l'hôpital, il y en a qui ont payé très cher sur leur promotion, c'est-à-dire ceux qui étaient internes, chefs de clinique et qui ne sont jamais devenus agrégés. Il y en a qui ont payé très cher. Moi, j'étais déjà installée. Bon, si on m'avait dit. On me raye de l'ordre, ben je disais, j'irai ouvrir un bistrot en Bretagne comme ma grand-mère.
Oui. Enfin, installé, vous êtes au dispensaire d'une mairie communiste à Aubervilliers. Peu d'années auparavant, Jeannette Torres-Vermersch avait expliqué que les femmes travailleuses ne réclamaient certes pas d'accéder à la jouissance des bourgeoises. Et peut-être qu'à Aubervilliers, les réactions n'ont pas été très favorables non plus au manifeste des 331.
Non, les réactions n'ont pas été. Mais il faut dire qu'il commençait à avoir, j'ai pas beaucoup parlé du MLAC, là, du mouvement pour liberté de l'avortement de la contraception, qui s'était fait autour de ça. Il y avait un groupe MLAC à Aubervilliers. Et effectivement, ils n'ont pas été contents. Mon directeur m'a dit, tu sais, le parti n'a pas pris encore position pour l'avortement. Écoute, tu risques d'être rayé, moi je pourrais rien faire pour toi. Et à ce moment-là, je répondais, il y aura des tracts sur le marché. Il n'y a pas eu de trac sur le marché parce qu'ils ne m'ont pas viré, ils m'ont gardé au contraire. Et Jacqueline de Chambrun, qui s'occupait de la santé à ce moment-là dans le 93, qui était formidable, nous a beaucoup soutenus. Et puis après, le parti a changé et le MLAC d'Aubervilliers a très bien fonctionné.
Jacqueline de Chambrun qui vient de disparaître il y a quelques semaines. Et vous voilà comme ça, invité le 27 mars 1973, alors que vous détestez finalement l'usage des médias, à la télévision, ou après la projection du film « Le journal d'une femme en blanc », Armand Jameau a donné la parole à des femmes, seulement des femmes. La moitié d'entre elles étaient hostiles à l'avortement. Vous allez entendre avec plaisir l'avocate Claude Lubin-Linet et le docteur Roussel Le Guen.
La découverte la plus récente de l'embryologie et de la génétique moderne nous prouve que la vie humaine commence à la conception.
Mais non, madame, pourquoi appeler un enfant?
Mais parce que lorsque je vois une femme, qui est enceinte et qui désire cet enfant, elle me parle de cet enfant, elle lui donne quelquefois déjà un nom.
Choisir d'être
mère. Je crois que madame voudrait la parole.
Il faudrait quand même un petit peu parler de l'enfant. Or, pour l'enfant, il n'y a pas de traumatisme, il y a le choix entre la vie ou la mort. Tout ce que vous proposez comme solution, c'est la mort de l'enfant. La mort de l'enfant pour éviter le traumatisme de la mère. Moi, je vous réponds, ceci n'est pas une solution. Il y a toujours d'autres solutions à l'avortement.
Puisqu'on voit que la contraception seule n'arrive pas à satisfaire, on aura du mal à éviter justement de proposer des stérilisations dans certains cas. Et pour moi, je préfère cela plutôt que de faire des avortements.
Bah oui, ça c'est un argument, on l'entend plus beaucoup.
C'est terrible, c'était l'argument qu'ils avaient. Il fallait stériliser, vous rendez compte ? Stériliser au lieu de laisser ces femmes échouer une fois peut-être, mais après elles peuvent avoir un an, deux ans après, elles peuvent avoir un enfant dans des meilleures conditions qu'elles auront vraiment désiré. C'est fou comme tous ces gens et toutes ces idées, ils parlent beaucoup de l'enfant, ils parlent très peu de la femme en réalité.
Les mouvements féministes se développent à l'époque. Il y avait eu un mouvement féministe, la première vague, il y a longtemps, sur le thème de l'égalité civile et politique. Là, c'est un mouvement qui porte les questions de sexualité comme des objets politiques. Comment regardez-vous les choses, vous et votre génération de militantes, du planning familial à ce moment-là, en 73-74?
On était au planning, on était en plein dans nos luttes uniquement, j'allais dire avortement, contraception, parce qu'on sentait que notre liberté passait par là. Mais c'est vrai qu'après, quand la loi a été votée, le mouvement français pour le planning familial a pris d'autres directions qui étaient plus politiques, plus sociales. Et enfin, ce que je pense, moi, c'est que ma génération, on a été assez maintenus dans ces luttes-là, qui étaient des luttes vraiment intimes, j'allais dire. Et peut-être que c'est grâce à ces luttes-là, certainement même, que les femmes qui ont acquis leur liberté maintenant, elles peuvent enfin aller dans les bastions masculins pour ce qui est du politique, pour ce qui est de leur métier, etc. Et c'est grâce à cette liberté-là. Et enfin maintenant, enfin on espère, on peut échapper à cette maternité non voulue qui les brimait beaucoup. Et maintenant, les femmes, elles ont leur égalité, elles vont vers l'égalité, elles iront vers l'égalité.
Ce que vous avez expérimenté avec cette génération qui a pris le pouvoir vraiment à partir de 73 au planning familial, on entendait Simone Yves tout à l'heure essayer de s'exprimer dans les dossiers de l'écran, c'était le fonctionnement démocratique que vous cherchiez à promouvoir.
Oui,
il n'y a pas une qui se détache, qui soit porte-parole. Toutes doivent pouvoir parler.
Oui, et ça, c'était très très fort au mouvement français pour le planning familial. Et c'était complètement l'inverse de ce qu'on entendait dans les universités. À l'hôpital, il y avait un patron qui décidait pour tout le monde. Il fallait obéir. Et finalement, là, on a été dans une vraie désobéissance civique. On a pris des canules qu'ils n'avaient pas inventées. On a fait des techniques qu'ils n'avaient pas inventées. On a fait autre chose. Et ça, c'était une vraie démocratisation.
Il y avait une méthode, je crois, au planning familial, quel que soit le rang qu'on avait dans l'organisation, on avait un temps de parole limité. C'était 3 minutes chacun.
Je me souviens plus de ça, mais c'est possible.
Ben merci de ces 30 minutes que vous nous avez accordées. Joël Brunnery-Kloffmann. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Fabrice Desmaz à la technique. La préparation, Elinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard. Dans un instant, archives d'écrivains du XXe siècle, relecture avec Louise de Villemorin.
Jean Lebrun sur France Inter.
Tu vas, tu repenses à ta vie déjà.
tu as déjà trahi? Combien de gens à qui tu as déjà menti? Combien de gens tu as déjà fait souffrir?